Delroy, nous allons faire un film fantastique.
Depuis Garbo, les actrices ont gardé ce mystère, ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.
Zone B, Wes Craven, deuxième partie. 5 ans après La Dernière Maison sur la Gauche, véritable petit coup de maître, il réalise La Colline à des yeux, un de ses chefs-d'œuvre toujours aussi controversé, aussi bien sur la forme que sur le fond. À l'époque, cette variation de Massacre à la tronçonneuse remporte tout de même le prix du meilleur film au Festival de Londres, le Grand Prix du Festival de Stige et le prix de l'Académie du cinéma fantastique et de science-fiction de Los Angeles. Les spécialistes du genre portent alors un grand intérêt pour un artiste qui, sur sa lancée, pourrait devenir un des grands metteurs en scène du genre. Son troisième long métrage est alors attendu au tournant. Ce que certains prennent alors pour de l'amateurisme, photographie naturaliste, caméra à l'épaule, montage parfois chaotique, est en fait un choix stylistique en accord avec les sujets traités. Craven a du talent, mais on va rapidement se rendre compte qu'il peut rater complètement ses films, voire pire aux yeux des ayatollahs des films d'horreur, se désintéresser de projets mineurs au profit d'autres plus personnels. Sauf que contrairement à un Carpenter, toujours soucieux du travail bien fait, même dans le cadre d'une commande, on se souvient de Christine ou du Village des damnés, Craven bâcle délibérément certaines de ses œuvres. Au lieu d'enchaîner sur une production plus cossue, il réalise son premier téléfilm en 1978, l'exécrable L'été de la peur, dont on cherche en vain la moindre trace de personnalité. Mou et sans intérêt, ce nanar a pour seul mérite de mettre en scène l'actrice Linda Blair, la fameuse Regan de l'Exorciste. Sans charisme particulier, plutôt rondelette et joufflue, l'actrice ne livre pas une performance inoubliable, loin de là. De toute façon, la suite de sa carrière ne sera guère brillante. Ce n'est qu'une scream girl, au fond, moins attirante que d'autres, sans citer de nom. Alors l'erreur est humaine et ne blâmons pas Wes Craven qui va enchaîner avec deux séries B de bonne facture, l'intrigant La Ferme de la Terreur et le nostalgique La Créature du Marais. Le premier est un excellent réquisitoire contre l'intégrisme et la religion qui a pour particularité de nous faire découvrir pour la première fois à l'écran Sharon Stone, déjà peu avare de ses charmes et de ses courbes. Le deuxième est un sympathique hommage effauché au cultissime L'étrange créature du lac noir de Jack Arnold avec en arrière-plan un discours écolo bienvenu. En 1984, il réalise deux téléfilms honnêtes, Chiller et Invitation pour l'Enfer, qui ont le mérite d'être assez bien écrits et interprétés. À défaut d'avoir un point de vue réel et une mise en scène inspirée, mais sacrilège, il signe aussi dans la foulée le pire film de sa carrière, l'innommable La Colline à des yeux 2, suite pitoyable et fauchée qui reprend sans vergogne des séquences entières du premier à travers un flashback ahurissant de bêtises. Le flashback provient des souvenirs d'un chien. Et oui, Craven est trop intelligent pour ne pas avoir saisi la stupidité du script. Il semblerait qu'il ait accepté cette séquelle afin de pouvoir réaliser l'un de ses plus grands films et de ses plus gros succès, Les Griffes de la Nuit, chef-d'œuvre de son auteur qui lance le croque-mitaine le plus original de l'histoire du cinéma.
J'ai pas arrêté de revoir son visage. Et ses affreux ongles. Ses affreux ongles. Ce que tu viens de dire à l'instant m'a fait me rappeler le cauchemar que j'ai eu cette nuit. C'était quoi ton cauchemar? Il y avait un mec avec un vieux pull vert.
Parce qu'il l'a massacré sous mes yeux.
Et j'ai fait cauchemar.
Thank you.
Les Griffes de la Nuit est un slasher inouï, traversé par l'esprit des contes de fées, la psychanalyse et la satire de la petite bourgeoisie provinciale. La figure mythique de Freddy hante encore les mémoires des cinéphiles les plus endurcis qui ont découvert le film à sa sortie en 1984. Bourré d'idées novatrices et traversé par des séquences vraiment flippantes, Les Griffes de la Nuit est peut-être le film le plus accompli de Craven, celui qui synthétise le mieux l'esprit tortueux et parfois contradictoire de son cinéma, mélange de réalisme crapoteux et d'attirance pour les univers féeriques issus de l'enfance.
Gilderoy, nous allons faire un film fantastique.
Depuis Garbo, les actrices ont gardé ce mystère et ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.